Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Canal FM.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Merci de nous faire toujours confiance et merci pour cette confiance sans cesse renouvelée à la 93.5. Le cinéma togolais était hier à l'honneur au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespaco. Le pays a brillé à travers une journée qui lui a été dédiée. L'événement marquant de cette célébration fut la projection du documentaire 112 de Joël Tédré qui a suscité l'enthousiasme du public au ciné Neroya. Tout s'est passé en présence de Madame Yawa Kuigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture. Elle a souligné que la participation du Togo à cette 29e édition du FESPACO illustre la progression notable du secteur et l'engagement en faveur du développement cinématographique. Le sujet nous intéresse et nous allons en parler ici au Club de la Presse de ce lundi 24 février 2025. Nous aborderons certainement d'autres sujets lié à l'actualité. Merci de nous choisir et bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapa. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères déjà présents dans ce studio avec moi, c'est Gosson Ketomanyan. Gosson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour aux fidèles lecteurs du journal Liberté.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Il suffit de me voir pour comprendre que je suis en bonne santé.
Tout à fait.
Et pour ça, je rends grâce.
Tout à fait.
Ma famille aussi va bien.
Voilà. Donc, votre chapeau, même d'ailleurs, de cow-boy, démontre à suffisance que vous allez très bien.
Même si ça ne va pas, oui. Il vient des moments où il faut pouvoir entretenir l'apparence. Mmh. Oui, parce que parfois, c'est nécessaire.
Ah bon?
Ouais, on ne va pas chaque fois étaler son état d'âme sur la place publique.
Je suis d'accord.
Parfois, dans certaines circonstances, on fait comme si tout allait bien.
Mmh. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas aussi de l'hypocrisie? Parce que, donc, on se dit, mais écoutez, quand ça ne va pas, il faut dire honnêtement que ça ne va pas.
De l'hypocrisie, je ne suis pas d'accord. En ce sens que les cinq doigts de la main ne sont pas au même niveau. Mmh. Ça veut dire que pendant que, peut-être, à ton niveau, tu te plains d'une situation, ailleurs, quelqu'un d'autre a affaire à une situation pire que la tienne. Et donc, arriver à accepter certaines situations, c'est la meilleure manière d'avancer, surtout de ne pas baisser les bras et de toujours chercher à aller de l'avant.
C'est l'essentiel. Et même aussi, des fois, il faut savoir aussi qui est son interlocuteur pour savoir donner aussi quelle réponse. Parce que si on ne sait pas faire, peut-être que c'est l'interlocuteur ou la personne qui est devant vous qui pourra peut-être vous décourager encore dans cette situation que vous vivez.
C'est en ça que il faut savoir à qui se confier. Et le meilleur ami de l'homme, c'est l'homme. Mon meilleur ami, c'est moi-même.
Le meilleur ami de
l'homme. Ben oui, il suffit que tu poses la tête sur le lit la nuit, que tu veuilles réfléchir. Nous avons toujours la solution. Le reste, c'est de l'hypocrisie plutôt.
D'accord. Merci beaucoup, Godson, pour cette philosophie. Le meilleur ami de l'homme, c'est l'homme. Merci. Didier Assogba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour et bonjour encore, merci.
Mais tu es si rayonnant ce matin.
Oui, je parlerai comme Godson. Je dirais qu'il faut des fois effrayer la galère et essayer de vivre ce qu'on espère avant même que l'heure n'arrive. Donc nous espérons vivre un certain nombre de choses et nous essayons déjà de nous comporter et de les vivre avant que ces choses n'arrivent. Donc voilà.
Alors, est-ce que ça veut dire que ce rayonnement-là que je suis en train de voir, c'est juste alors pour effrayer la galère?
Ben, il faut se dire des fois que les situations, quel que soit ce que nous dit la réalité, il y a des situations meilleures que ce qu'on traverse. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir, il y a le meilleur qui doit venir. Donc à partir de ce moment-là, on va pas dormir sur nos lauriers, c'est-à-dire tenir compte de ce qui se passe ou de ce qui se passe autour de nous ou de ce qu'on vit, mais de se dire qu'il y a du mieux à venir. Et donc, de ma foi chrétienne, il est dit que le juste vivra par sa foi. Donc, ma foi, c'est que le lendemain sera meilleur et j'essaie de me comporter dans cette perspective-là. Donc, je ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je marche par rapport à ce que j'espère pouvoir arriver dans ma vie.
D'accord. Ce qui est sûr, quand je vous vois dans votre veste et tout, vous ressemblez à un ministre. Et donc, ça pour moi qui vous vois,
si c'est de la prémonition, je prends. si c'est une prophétie aussi, je prends. Bon, voilà. Donc, maintenant, le reste, on laisse entre les mains de Dieu.
Il semble que la parole de Dieu dit aussi que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre.
Ben, je ne sais pas si c'est Dieu qui a mis ces paroles dans ta bouche. Donc, moi, je prends de toute façon.
Merci beaucoup, Didier. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Et, c'est vrai, je parlais alors de ce sujet au début, dans mes mots introductifs. Je vais bien parler alors du cinéma. Il faut qu'on parle tout au début, bien sûr, alors de comment commence même d'ailleurs cette émission avec le cinéma, c'est-à-dire cette participation du Togo au FESPACO. Il y a 6 productions du Togo qui sont à l'honneur au FESPACO, ce festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et le Togo a brillé hier à travers sa prestation, puisque c'était la journée d'hier dimanche était réservée au Togo. Gosson Ketomania, alors quand on suit justement ces prouesses du cinéma togolais à l'extérieur, surtout à un événement comme le FESPACO, on ne peut qu'apprécier, Gosson.
Ben, c'est de bonne guerre, Pascal. Quand à un certain moment, on fait bien, il est intellectuellement honnête de le reconnaître. Mais alors, le Togo n'est pas, je crois bien, à sa première participation au FESPACO.
Tout à fait.
Moi, j'étais à Ouaga pendant 6 mois en 2010. Et il y a eu, depuis avant cette date, le FESPACO à Ouagadougou. Mais en ce temps-là, comment se comportait le cinéma togolais? C'est en ça que je souhaite que dans toute situation, que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est vrai, cette année, on parle de prouesse du Togo. Je prends acte. Mais l'année prochaine, ou dans 2 ans, si lors de cette nouvelle rencontre, il n'y a pas ce succès comme celui de 2025, il faudrait aussi qu'on y consacre du temps et de la réflexion Ce n'est pas seulement quand c'est bon que le Togo doit tout faire pour monter sur le toit de l'Afrique et claironner comme quoi nous avons bien presté et autres. Non. Quand c'est aussi un fiasco, c'est plutôt le lieu d'en parler pour pouvoir faire les réglages nécessaires afin qu'on aille de l'avant à la prochaine édition. Donc, je veux croire que l'année prochaine aussi, que ça marche bien ou pas, notre ministre et le pays consacreront du temps et de l'énergie à cet art-là.
D'accord. Oui, disais, est-ce que finalement, vous avez l'impression que pour ce qui concerne la politique cinématographique au Togo, ça reçoit vraiment les moyens nécessaires qu'il faut?
D'abord, félicitations au pays et aux acteurs du monde cinématographique pour leurs efforts et leur production et tout ce qu'ils essayent de faire pour permettre au Togo de continuer à exister dans le concert des nations, surtout en Afrique, en ce qui concerne le monde, l'industrie cinématographique. Et la preuve, c'est que les efforts de nos artistes ont permis aujourd'hui d'avoir cette participation-là, cette présence-là au FESPACO. Mais comme tu le dis, je pense que en matière de cinéma et en matière culturelle, il faut véritablement que le Togo et le gouvernement togolais soient beaucoup plus le gouvernement togolais soit beaucoup plus ambitieux dans ce domaine-là, parce que ce qu'on constate, notamment par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, c'est que le monde culturel togolais est moins soutenu, encore plus le monde cinématographique moins soutenu. C'est vrai qu'il y a quelques efforts dernièrement, il y a eu l'adoption d'une politique en matière du cinéma, mais bon voilà, entre l'adoption d'une politique, entre adopter un test et les actes à poser, il y a une grande différence. Et donc, ce qui fait que le cinéma togolais n'est pas tellement en vue dans la sous-région. Le FESPACO nous fait l'honneur aujourd'hui de nominer 6 films togolais. Mais s'il y avait eu beaucoup plus de soutien à ce secteur, aux acteurs de ce secteur, et de l'ambition de se dire qu'on pourra vendre le Togo à travers le cinéma, on pourra vendre la culture togolaise à travers le cinéma, je pense qu'il n'y aura pas que le FESPACO, il y aura d'autres secteurs, d'autres rendez-vous mondiaux auxquels le Togo pourrait valablement participer. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a cette participation pour laquelle nous nous réjouissons aujourd'hui. Mais est-ce que ça sera continu? Est-ce que ce sera continuel dans le temps, vu qu'aujourd'hui, cette participation-là, moi, je la mets seulement au crédit des acteurs du domaine qui, malgré toutes les situations qu'ils traversent, malgré le manque de soutien et de financement qu'il y a dans ce secteur-là, des acteurs essayent toujours de ne pas abandonner leur rêve, de ne pas abandonner leur ambition, et ils continuent de produire malgré tout. Donc c'est au crédit des acteurs et des maisons de production qui continuent quand même de produire du film au Togo. Maintenant que le gouvernement, maintenant que nous avons une ministre qui est chef de délégation du Togo au FESPACO, je pense que cette présence-là est quand même quelque chose qu'il faut saluer, et que la participation là-bas, tout ce que Madame le ministre aura à suivre dans les présentations de ce que la manière dont les autres pays essaient de soutenir ces secteurs-là permettra finalement au Togo, au gouvernement togolais, de se dire oui, le Togo pourra se développer également à travers ses acteurs culturels, notamment le monde cinématographique, et que dans le prochain budget, et qu'on puisse dégager une manne importante qui pourra permettre de soutenir le monde culturel togolais en général, mais surtout le monde cinématographique, qui a, lui, besoin de beaucoup plus de soutien, de beaucoup plus de moyens, parce qu'on dit on tourne un film, ça ne va pas être seulement à Lomé. Il faut des déplacements, il faut des logements, il faut de la restauration, il faut beaucoup de choses, des primes, de salaires à payer, et surtout aussi des matériels à acquérir. Donc, je pense que le cinéma est budgétivore. Et donc, si nous voulons avoir demain un cinéma togolais qui rayonne dans la sous-région et bien au-delà, il faut véritablement qu'on y mette des moyens. Ne nous cachons pas, aujourd'hui, on ne met pas ces moyens. Bon, voilà, bon gré mal gré, on a cette participation remarquable au FESPACO, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt.
D'accord. Ouais, mais on doit mettre les moyens, tels que Didier le dit. Gossam, c'est vrai que ce n'est pas les talents qui en manquent, hein, parce que quand on prend aujourd'hui nos cinéastes et aussi nos réalisateurs, on en compte beaucoup. Il y a Steven Haff, il y a Julio Teko même d'ailleurs, qui a été sollicité pour la série Cacao en Côte d'Ivoire, que nous suivons actuellement, même d'ailleurs sur nos petits écrans. Il y a Angela Akédé-Bourou qui a eu également de prouesses tout récemment. Il y a beaucoup, hein, Joël Tidré, beaucoup quand même qui sont sur la liste et qui constituent des talents. Mais comment se fait-il que ce rayonnement dont on veut pour alors que ce cinéma s'attarde toujours à venir?
C'est une question de volonté et de vision, Pascal. Tout à l'heure, j'entends dire que le cinéma est budgétivore. Nuance. Pour produire de bons films, on met beaucoup de moyens. Et quand ces films-là prennent, on a tout fait d'oublier les investissements. Parce que le retour sur investissement, mais ce n'est pas l'investissement multiplié par 5 ou par 10. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, dire que le cinéma est budgétivore, c'est comme quand on dit que le Sénat va être budgétivore. Là, c'est sûr. Parce qu'il n'y aura même pas de retour sur investissement. Pour tout cinéma, un bon film, et même au Togo, combien, c'est quoi on veut qualifier de budgétivore? Le nécessaire pour mettre les acteurs à l'aise. Tu viens de d'énumérer des noms, pour ne pas dire des talents. Mais quand vous, si vous reconnaissez vraiment que ce sont des talents, vous devez fermer les yeux sur le financement pour leur permettre de rayonner.
Mais s'ils rayonnent, c'est le pays qui rayonne. Ce sont des talents qui sont même sollicités ailleurs et qu'il faut bien également.
Je ne te le fais pas dire, c'est vrai. Il y a d'autres pays dont les fils travaillent dans d'autres pays aussi, et au Togo également. Et donc, quoi qu'on dise, on ne peut que souhaiter bon vent à Madame Akédé-Bourou et à tous ces talents qui n'attendent que le déclic. Et en matière de cinéma, qui dit déclic, dit le nerf de la guerre. Les idées sont là, ça c'est sûr, c'est certain. Quand tu es à l'aise, la réflexion, parfois ça vient facilement. Mais quand, pour traverser la journée, tu dois faire des gymnastiques intellectuelles pour pouvoir joindre les deux bouts, parfois on risque de te qualifier de taré, alors que tu n'attends que ce déclic-là pour éclore. Donc, qu'on permette aux acteurs culturels d'éclore. Et qui doit le leur permettre? C'est les gouvernants.
D'accord, c'est les gouvernements. Didier, c'est vrai, nous parlons alors du cinéma budgétivore, mais au même moment, quand on voit d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal aujourd'hui, leur cinéma rayonne, est-ce que ça veut dire que finalement, ils ont compris quand même que le cinéma constitue également de, comme on le dit, de soft power, hein, pour influencer?
Ben, c'est clair que aujourd'hui, quand vous citez des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, pour ne citer que ceux-là dans la sous-région, c'est des pays qui sont très 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 loin en matière de cinéma et leur cinéma d'ailleurs, leur production sont tellement de qualité reconnue et qui sont même joués sur des chaînes à l'échelle internationale. Donc à partir de ce moment-là, c'est clair que, comme je dis, Le secteur cinématographique permet même de vendre un pays, d'exporter la culture d'un pays. Les avantages sont si nombreux. Ça permet également de donner de l'emploi aux acteurs du domaine. Et le cinéma fait beaucoup de choses. Donc, ces pays qui performent aujourd'hui en matière cinématographique l'ont compris beaucoup plus tôt. Eh bien, je dirais même il y a bien des années. Et dans les années 90, déjà, on voyait déjà ce qu'était le cinéma ivoirien, par exemple. Dans les années 2000, on voyait également ce que représentait le cinéma ivoirien. Mais aujourd'hui, on peut pas comparer un film. Voilà, vous voyez les films ivoiriens aujourd'hui, les séries ivoiriennes aujourd'hui, vous allez croire que c'est tourné ailleurs ou par d'autres personnes, mais c'est fait par des Ivoiriens. Donc, toute une question d'ambition et toute une question de vision et d'investissement. Pendant que les autres faisaient ça, où étions-nous? Que faisions-nous à l'époque? Voilà. Aujourd'hui, il n'est jamais tard pour mieux faire. Aujourd'hui que nous reconnaissons que ce secteur pourrait nous représenter quelque chose, il pourrait nous permettre également d'exporter un narratif peut-être togolais, la culture togolaise, ou voilà, ne serait-ce que vendre une autre image de notre pays, et également montrer que on soutient ce secteur-là qui représente quelque chose naturellement dans le développement d'un pays. C'est à nous maintenant de changer le fusil d'épaule. C'est naturellement à nous aujourd'hui de changer de fusil d'épaule. On dira, ce discours-là, on l'a entendu et on l'entend depuis des années également, que tout est priorité. Mais bon, voilà, je doute fort que ça ne soit pas le cas ailleurs. Ailleurs également, tout est priorité. Mais tout est une question, moi je dis, d'ambition et de volonté également. S'il y a de l'ambition et s'il y a de la volonté politique derrière, on pourra naturellement soutenir ce secteur-là et permettre aux acteurs de ce secteur d'aller dans leur tréfonds et de nous donner du meilleur. Et donc, si la Côte d'Ivoire l'a fait, si le Sénégal le fait, si le Burkina le fait au point d'avoir un festival international de renom aujourd'hui, pourquoi pas le Mali, pourquoi pas le Togo? Donc, je peux m'amuser de faire ce rêve-là en direct ici, de dire que peut-être dans 10 ans, quand on parlera de FESPACO, peut-être que l'étalon d'or ou le trophée final, un film togolais pourra le remporter. Ça ne va pas être seulement que des films venus d'ailleurs, des films de la sous-région, mais qu'un film togolais également pourra remporter l'étalon d'or, et ce sera une fierté pour le Togo. Et si on veut avoir ce sacre-là, ça dépendra de comment est-ce que les gouvernants s'investissent, de comment est-ce que les gouvernants accompagnent les acteurs de ce secteur. Et je dis, Dieu seul sait combien de talents avons-nous dans ce secteur. On a déjà vu des exploits par le passé. Tu as cité Steven Aff, on pourra citer Angela Akereburu, que le Bénin vient de nous arracher. Donc voilà, c'est bien dommage qu'on perde des talents. Quand je dis perdre, je n'ai pas dit qu'on l'a perdu en tant que Togolaise, hein, dans ce sens-là, mais que d'autres pays nous arrachent des talents de cette envergure-là pour en faire leur directeur, voilà. Alors qu'on a des services pareils ici, que ces talents peuvent diriger. Donc, si on veut faire quelque chose d'autre, on a des Joël Tchédré, on a bien des acteurs.
Dans, coups,
voilà.
Ils sont nombreux.
Ils sont nombreux qui produisent de très bons films. Il y a de l'ambition, il y a de la volonté, il y a du talent. Maintenant, reste de l'accompagnement politique, de l'accompagnement financier et de l'argent investi dans ce secteur-là pour que demain, on puisse parler également d'un vrai cinéma togolais.
D'accord. Nous quittons le cinéma, on va s'intéresser à un autre sujet. C'est vrai, vous le disiez tout de suite, qu'il est souvent dit que tout est priorité. Il semble que la route aussi est prioritaire, parce que il y a notre confrère Liberté qui écrit ce matin: manque de route dans les localités de l'intérieur, un frein au désenclavement. Alors, Gosson, vous titrez sur ce sujet, et je sais que dans le week-end, nous avons appris aussi, parce qu'il y a le journal Togo Matin qui nous informe qu'il y a un accident qui s'est déroulé, qui s'est produit à Bouladé. Bouladé, c'est à 15 km de Bafilo. Le journal écrit: Togo, une vie perdue et 18 blessés dans un accident à Bouladé. Et cet accident a eu lieu le samedi dernier. Et au cours alors de cet accident, il y a un décès et 18 blessés graves au cours alors de cet accident. Et là, on dira que la route a encore fait perdre alors une vie.
Oui et non. Quand une route est goudronnée,
ce n'est pas elle qui fait perdre la vie. C'est l'homme qui fait perdre la vie à l'homme. En ce sens que la route n'a pas de fusil ni de coucou entre les mains pour que, à ton passage, elle te tranche la gorge. Non. Du moment que toi qui roules sur la voie, tu ne prends pas les précautions qu'il faut, même au niveau du chargement, de l'état des véhicules, la route est à tort accusée de causer des pertes en vies humaines. Revenant à notre titre, je ne sais pas si tu aurais deviné que c'est mon œuvre. Nous avons pris juste 4 situations pour révéler comment le manque de route ou de bonne route handicape le progrès. C'était en 2010, si j'ai bonne mémoire, qu'on avait lancé le projet de Well City. 1000 logements sociaux à Déticopé. De la nationale jusqu'à Well City, ça fait au moins 5 kilomètres. Aujourd'hui, je pense que ce projet est en voie de finition, s'il n'est pas déjà fini. Mais Pascal, comment est-ce que pour un projet de logements sociaux qu'on veut construire dans une localité, la voie pour y accéder soit comme au précambrien. C'est pas des nids d'oiseaux, mais c'est des nids d'autruches. Et surtout en saison pluvieuse, il est difficile de pratiquer, de joindre West City avec cette voie-là. Ça, c'est un. Nous en parlions la dernière fois avec Dadide, la voie de Aménian à Gomeglouzou. De l'autre côté de la frontière, la ville d'Atiémé, c'est du goudron et avec des lampadaires de part et d'autre. Même le pont, c'est goudronné parce que selon les informations, c'est une œuvre béninoise. Mais sitôt le pont franchi, Pascal, c'est d'abord une vingtaine de mètres de pavé cabossé et après, la poussière vous accueille. Sur les 20 kilomètres ralliant à Gomeglouzou, à Afanya.
Et même d'Afanya à Ménirin, la voie n'est pas
tout
aussi.
Tout à fait. Oui. Et pourtant, bon, qu'on m'excuse, Afanya, c'est le berceau de notre président. C'est là où il est venu, il est né, Fonia Simbé. Donc, un clin d'œil sur cette voie ne ferait de mal à personne. Quand on se rappelle qu'en 2015, le président avait promis jeter un coup d'œil sur cette voie. Et selon des informations, même le ministre Gilbert Barra, qui avait pratiqué la voie, avait avoué ou elle avait dénoncé l'impraticabilité de cette voie-là. 10 ans sont passés. Le statu quo. On veut installer un IFAD, institut de formation, à Tindjassi. De Bassa à Tindjassi. C'est une centaine de kilomètres. Mais tu mets facilement 4 heures pour aller de Bassa à Tindjassi. Pourtant, il y a la voie de Adjengré pour contourner la montagne, le mont Fazao, et descendre, on va à Tindjassi. C'est aussi dans la zone-là qu'il y a la cascade la plus élevée de la région, la cascade Suruku, que l'État, pour laquelle l'État veut décaisser plus d'un milliard pour la rénover, la rendre attrayante. Mais si elle venait à être attrayante, si l'IFAD venait à être installée, par quelle voie les gens vont rallier cette localité pour découvrir les attraits touristiques et se faire former? Ce sont des situations qui, mises les unes sur les autres, nous font dire que s'il est vrai qu'il y a toutes les priorités, il y a des priorités dans les priorités. Et parmi ces priorités primaires, la route togolaise a besoin d'un regard plus sérieux. Nous avons même, on a cité un quatrième exemple, mais il suffit que les lecteurs se procurent le journal. Les autorités aussi, ils verront que nous sommes des éveilleurs de conscience. On les aide pour qu'ils sachent que ils ne sont pas les seuls possesseurs de la science infuse et qu'on leur ouvre les yeux afin que le pays soit vivable pour nous tous.
D'accord. Disais, la situation que décrit notre confrère Gosson, c'est une situation qui est réelle, compte tenu même d'ailleurs de l'accès à certaines infrastructures à l'intérieur du pays. Il y a toujours cette difficulté. Pourtant, nous avons quand même un ministère chargé de désenclavement des pistes rurales.
Oui, ben nous avons un ministère, oui, depuis, je crois que depuis des années, hein, ou depuis toujours, on a ce ministère de chargé de désenclavement, bon, un ministère hybride hein, des travaux publics de toute façon. On aurait pu, dans d'autres pays, on n'a pas de ministère de désenclavement, c'est toujours le ministère des travaux publics qui s'en charge. Oui, on a ce ministère. Bon, maintenant, après... Est-ce que avoir un ministère, ça suppose forcément avoir des routes qui désenclavent les localités? Non. Avoir des routes, c'est une question d'argent. Une question d'argent, de programmation, d'ambition, de volonté aussi. Surtout une volonté de développement d'un pays et voilà, d'évolution également. Surtout que nous savons que toutes nos localités ont des difficultés aujourd'hui. Il a parlé d'Agomeglozou, je connais bien la zone. Il y a même un projet agricole là-bas.
De riziculture, je pense.
Naturellement. Où en est ce projet aujourd'hui? Personne ne connaît beaucoup de choses dessus. Et aujourd'hui, bon, on est heureux quand même de ce que le gouvernement ait décidé de mettre un IFAD là-bas. Peut-être que l'érection de l'IFAD pourra permettre aujourd'hui aux autorités de se rendre compte de la situation de cette route-là et de finalement décider de programmer la construction naturellement de cette route-là pour ne serait-ce que rattraper ce retard entre griffes qu'on a avec le Bénin vis-à-vis de l'autre route dont il parle. Donc aujourd'hui, il a décrit une situation qui est bien réelle dans l'intérieur du pays. C'est très compliqué de se dire. Nous on dit tout ça ici, mais le gouvernement, on va vous dire, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de moyens et tout ça. Mais les localités ont besoin aujourd'hui, nous avons besoin aujourd'hui des routes. Ça, bien malin qui pourra dire le contraire. Le pays a besoin de routes, tant à l'intérieur du pays que même à Lomé. Que même à Lomé. À Lomé, par exemple, on a encore même des boulevards qui attendent encore d'être bitumés, des avenues qui attendent encore d'être bitumées, ce que nous appelons pour la plupart des routes secondaires qui attendent encore beaucoup d'autres choses. Lomé, c'est ça la situation. Dans la périphérie de Lomé, c'est encore terrible. Surtout que la périphérie de Lomé aujourd'hui devient un peu comme le sauvetage de Monsieur Tout-le-Monde qui ne peut plus se loger à Lomé. Donc vous voyez des localités comme les Neupé, les Michintové, les Diagblé, la Kato, c'est la périphérie de Lomé aujourd'hui qui essaye quand même d'aider un certain nombre de Togolais à continuer à se loger près de la ville. Donc pour accéder à ces localités là, on n'a pas de route, c'est une réalité aujourd'hui, donc c'est très compliqué et on va continuer à espérer que nos autorités elles-mêmes des fois se donnent la peine des fois de pratiquer. Voilà, peut-être que on en parle ici, on va dire c'est peut-être des débats de journalistes, mais si des fois les autorités se donnent la peine, ok, on a tellement parlé de la route d'Agomeglozou, on va la pratiquer, voir ce que ça donne, pratiquer d'autres routes, voir ce que ça donne. Tant à Lomé qu'à l'intérieur du pays, je pense que peut-être que la décision la décision pourra peut-être être mieux motivée que peut-être que on en parle ici. J'ai arrêté de parler de la route à Épécouvé parce que voilà, tu comprends de ce que je voilà. Donc c'est des situations un peu partout dans le pays où on se dit peut-être un jour il y aura du mieux, mais ça fait des années que le mieux se fait attendre et peut-être que les autorités décideront un jour finalement. On ne dit pas de goudronner toutes les routes à la fois. Mais bon, si on voit quand même de l'évolution chaque année, on pourra se dire peut-être que dans 10 ans, pourquoi pas, dans 30 ans, on pourrait arriver chez nous quelque part là-bas. Mais si on a l'impression que, bon, voilà, ça ne se fait plus comme, par exemple, on l'a eu à constater entre 2010 et 2015, par exemple, que plus rien ne se fait dans ce sens-là, c'est peut-être ce qui décourage encore et ce qui motive nos confrères de Liberté à dire manque de route hein, dans le pays, un frein au développement.
D'accord. Oui, mais Gosson, au-delà de tout, il faut aussi, c'est vrai, il y a cette question alors de volonté et politique pour le faire. Si on a même d'ailleurs un ministère chargé alors de ces portefeuilles, ça veut dire que on a en quelque sorte cette volonté. Mais au-delà de cette volonté, il faut les moyens. Est-ce qu'on ne nous dira pas que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens?
Le quatrième exemple m'est venu. On a également parlé, après Well City, de Pomé, où doivent être construits 20 000 logements sociaux, Pascal. Mais dans l'appel d'offres récent, il se trouve que pour ces 20 000 logements, c'est la voie Pomé, Dalave et Thévier qui débouche au carrefour de l'Union, qui doit être refaite. Et les alentours des logements sociaux, ces deux travaux-là, qui font près de 34 km pour un budget, voilà, une facture de moins de 500 millions. Tu comprends aisément que on ne va pas bitumer. Pourtant, on veut construire. Or, il y a eu la première expérience à Well City, où on a conçu des logements sociaux, mais sans voie d'accès, bitumé. On reprend la même chose à Pomé, ou on veut reprendre la même chose à Pomé. Quand tu viens me parler de manque de moyens, nous l'avons écrit, à force de ne pas rendre visible ce qu'on fait avec les emprunts, moi je reste dubitatif quand on me sort cet argumentaire, puisque pour régler une partie de notre dette et ainsi que les intérêts pour 2025, nous allons décaisser 877 milliards. Pascal, tu peux imaginer ce que ce montant peut représenter en matière de bitumage de route. Qu'est-ce que nous faisons pour emprunter autant et les populations peinent à avoir les réalisations? La dernière fois, c'est Kakou qui en a parlé, la suspension de l'aide à l'USAID.
Oui.
Qui dit que c'est une opportunité pour les dirigeants africains. À supposer qu'il n'y ait plus possibilité de faire des emprunts, on va vivre comment? On doit pouvoir trouver l'énergie nécessaire pour s'auto-suffire. Mais si chaque fois, parce que le marché financier est ouvert, on y repart chaque fois, peu importe le taux d'intérêt. Mais à quand la sortie de l'auberge? Donc, parler de manque de moyens, mais matérialiser ça en posant les gestes qui prouvent que vous êtes conscient qu'il y a manque de moyens. Vous voulez créer, vous voulez mettre en place un Sénat. Vous avez créé des conseils régionaux. Vous avez augmenté le nombre de députés. Tout ça pourquoi? Ou alors, tout ça là, ça ne consomme pas du budget. Donc, c'est quand on veut parler de réfection des routes au profit de toute la population qu'on vient de sortir l'argumentaire de manque de moyens. Ça peut convaincre beaucoup, mais ça aura du mal à me convaincre.
Sur le cas d'Espèce, par exemple, de cité à Pomé, c'est une zone que tout le monde connaît naturellement. Je pense que il y a aussi un problème avec la conception de nos projets. Il y a aussi ce problème-là avec la conception d'un certain nombre de projets. Vous voyez, Lomé est beaucoup plus proche. Bon, je me dis, si on prend Lomé, on passe par Diaglé pour arriver à Lomé, c'est beaucoup plus proche que de passer par Lomé, aller à Thévier, prendre Daravé pour aller à Lomé. Et donc, si on avait eu beaucoup plus d'ambition dès le départ dans la construction de la route Lomé-Vaugan, on aurait pu se dire dès le départ que on voudra mettre une cité à Pomé et qu'on mette véritablement une route entre Lomé et Pomé, Lomé, Diaglé, Pomé pour continuer. Pour se dire que si on fait deux fois deux voies, entre Kégué, par exemple, et Ekpoumé, ça pourra naturellement servir la cité de 20 000 logements qu'on veut construire là-bas. Et donc, ce sera plus facile pour le Togolais qui quitte Lomé et qui prend facilement une route bien bitumée. Ça sera, d'ailleurs, même la cité sera beaucoup plus attrayante.
Tout à fait.
Que de se dire, on fait une réfection d'une voie qui passe par la cité là, qui passe au niveau de la cité là, qui passe par Dalavé pour arriver à Thévier avant de retrouver le goudron pour essayer de voir si on veut arriver à Lomé et tout ça. Donc, est-ce que la cité sera attrayante dans ce cas-là? Moi, je me dis non. Donc, si cette fois, on met la cité de 20 000 logements et que cette cité-là, il n'y aura pas de voie praticable pour y accéder, ben, ce sera finalement, ma foi, du gâchis parce que ce ne sera pas attrayant. C'est le problème qui se pose aujourd'hui avec Real City. Beaucoup de Togolais de la diaspora qui avaient acheté des villas là-bas ou qui avaient même préfinancé des villas là-bas essayent maintenant de revendre pour récupérer leur argent parce qu'il n'y a pas de voie qui dessert la cité là-bas. Donc il y a toujours ce problème avec nos projets et nous en parlons ici, c'est peut-être pour attirer l'attention des autorités de se dire si vous mettez des cités quelque part, essayez quand même de voir l'accompagnement de rendre attrayant ce projet-là et accessible ce projet-là par la voie qui dessert. Et donc, je pense que nous allons continuer à payer pour des fois nos mauvais choix, des fois, parce que la route Lomé-Vaugan a été une route assez légendaire dans le pays.
Multibudgétivore.
Légendaire dans ce pays pour ne finalement être qu'une ruelle à la fin. Entre Kégué et voilà jusqu'à Kpoumé dont nous parlons aujourd'hui, si on avait véritablement fait une bonne route en aller et retour, aujourd'hui ce projet de cité sera plutôt un projet beaucoup plus attrayant et qui d'ailleurs même sera à l'avantage du gouvernement parce que beaucoup de personnes vont courir pour acheter des villas là-bas. Mais ce n'est pas le cas actuellement. On espère peut-être que ce n'est pas tard, que d'ici l'année prochaine, quelque chose sera fait.
D'accord. Alors, nous parlions entre-temps alors de moyens. Et il y a le journal Togo Matin qui nous informe que le Togo vient de faire une nouvelle mobilisation financière. Et le journal écrit Humo à titre, nouvelle mobilisation financière, confiance renouvelée des investisseurs au Togo. Et le journal nous informe que le Togo a réussi sa nouvelle sortie sur le marché financier régional. Et ce 21 février, le pays a levé 16,5 milliards de francs CFA grâce à l'émission de bons assimilables du Trésor BAT alors qu'il n'en visait que 15 milliards de francs CFA. Nous allons nous intéresser maintenant à notre sujet, bien sûr, nous allons parler politique. Gosson, vous nous donnez bien sûr ce sujet, le journal Liberté nous donne ce sujet par rapport à cette interview que le député Aimé Gogué vous a fait et vous écrivez: Aimé Gogué, doute, tolérance et unité, les clés d'une opposition forte pour l'alternance au Togo. Alors finalement, on dirait que le député Aimé Gogué a su trouver justement les voies pour une alternance au Togo.
Doute, tolérance, unité. Je ne veux pas dire que c'est une trouvaille du professeur Gogué, non. Parce que l'univers politique au Togo est assez connu de beaucoup, surtout concernant les leaders, l'opposition en général. Quand vous doutez de l'autre alors que vous voulez vous mettre ensemble, c'est normal que vous ne puissiez pas vous ouvrir totalement à l'autre. Quand, bien que vous soyez ensemble, l'autre trébuche ou commet un impair, si vous ne pouvez pas être tolérant pour que en famille, ça, l'affaire se lave sans être mise au dehors, il y a problème. Quand, pour certaines échéances, on estime pas égaux ou je ne sais quoi, qu'on veut y aller de façon solidaire et non unitaire. On a souvent utilisé l'expression « émiettement des voix ». Il y a encore d'autres griefs qu'on retient contre l'opposition. Donc, je constate juste que le professeur Aimé Gogué a donné un avis. Reste à savoir si, je ne veux même pas parler de classe politique ou alors l'ensemble de l'opposition, parce que il y a de ces partis dits politiques dont les membres ne pourront même pas remplir ce studio-là. Mais chaque fois, au lieu que, par exemple, les leaders de ces partis aient, ou alors soient humbles et reconnaissent leurs limites, mais parce qu'ils se disent partis politiques aussi, ils sont prêts à jouer au trouble fait. Du moment qu'ils sont dans un ensemble politique, ils sont prêts à toujours donner de la voix. Alors que si on veut interviewer ou alors faire des statistiques, comme je l'ai déjà dit, tes militants ne rempliront pas ce studio-là. Donc, finalement, on est là. Certains choisissent de ne pas participer à des échéances. D'autres choisissent d'y participer. Mais quand c'est ainsi, on se demande à quand une voix commune, puisque au sein même d'eux, il y a certains qui ne veulent pas entendre parler de voix commune. Et pourtant, vous avez en face l'ogre qui, même s'il y a des problèmes en interne, ne les étale jamais sur la place publique. C'est vrai, c'est votre adversaire, mais parfois il faut savoir copier quelque chose auprès de son adversaire pour mieux le contrer. Mais s'il faut chaque fois pour des intérêts personnels, chercher à jouer au trou fait. Heureusement que je ne suis pas politicien, je suis journaliste. Et ça ne s'est pas encore passé. Parce que le jour un politicien voudra remettre et mon intégrité et mon travail en question, ce jour-là, Pascal, tu entendras parler de moi d'une autre manière.
D'accord. Alors, disais, quand on suit ce diagnostic lors de l'opposition hein, fait par professeur Aimé Gogué, alors est-ce qu'on ne comprend pas que déjà avec ces problèmes au sein alors des partis politiques de l'opposition ou de l'opposition en général, il est très important aujourd'hui qu'on fasse le ménage et qu'on arrive à une unité d'action comme peut-être alors le souhaite certains.
Vous savez, le problème avec l'opposition togolaise, c'est un problème très très profond. Et ce problème-là, il faut plutôt prendre peut-être beaucoup de temps de réflexion pour trouver des solutions. On ne peut pas, tout le monde attaque cette opposition, des gens essayent de dire qu'il y a des solutions magiques, ça n'existera jamais. La question de l'opposition togolaise est assez particulière parce que elle est restée la seule opposition toujours en lutte depuis plus de 30 ans et qui n'a jamais accédé au pouvoir. Contrairement aux autres oppositions de la sous-région où il y a eu des gens qui ont accédé au pouvoir un temps avant de, et puis des gens ont les moyens de leur lutte, de leurs actions. Mais vous avez une opposition qui est opposition depuis quand même plus de, voilà, tu peux me donner le nombre d'années exactes,
des décennies.
Depuis plus de 30 ans au moins, elle est restée quand même une opposition. Ben, voilà, donc des ténors finissent par mourir, mais il reste quand même quelques acteurs qui sont restés opposants depuis plus de 30 ans. Donc c'est très compliqué déjà. Parce que il y a un problème déjà de renouvellement, il y aura un problème de moyens, il y a tout un tas de problèmes. Maintenant, est-ce que une lutte politique, est-ce que ça s'arrête seulement à une question d'unité? Je ne crois pas ça soit forcément une question d'unité qui pose problème à cette opposition. Pourquoi est-ce qu'on veut demander à tous les partis politiques de l'opposition de se mettre ensemble alors que les gens ont peut-être des idéologies différentes, des manières d'analyse d'un certain nombre de choses.
Et mais disait là, si, ensemble, ils souhaitent une seule chose, c'est-à-dire l'alternance. Comment se fait-il que l'unité d'action ne devait pas être aussi la clé?
Ben oui, mais on dit souvent qu'ils souhaitent la même chose, l'alternance. Mais quand il arrive peut-être de définir ce que vous appelez pas l'alternance, les gens ne voient pas les choses de la même façon. Donc, sur plusieurs plans, les partis politiques ou les leaders de l'opposition ne voient pas les choses de la même façon. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils se disent opposants modérés. Certains même font appel au pouvoir de leur confier un certain nombre de choses. Mais quand on arrive au point où on vous dit de définir la question de l'alternance, mais chacun, il y a déjà des divergences. Mais ça aurait été dans d'autres pays, un parti politique peut gagner les élections. On a vu l'exemple au Ghana. Il n'a pas eu besoin de faire l'unité de l'opposition avant que des partis politiques ne gagnent des élections. Au Bénin ou dans d'autres pays, il n'y a pas eu besoin d'unité de l'opposition pour gagner des élections. Il y a eu juste question peut-être, voilà, des fois des ralliements et tout. Mais vous voyez, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas eu l'unité de l'opposition. Au Togo, il n'y a jamais eu d'unité d'opposition. On ne peut pas non plus dire ça. Le peu que je sais de mon âge, en 2005 par exemple, on a vu une coalition.
Il y a des regroupements politiques quand même qui ont été formés.
On a eu une coalition en 2005. Qu'est-ce que ça a donné? On a eu d'autres coalitions, d'autres regroupements en 2011-2012. CST Arc-en-Ciel par là. Après, on aura eu déjà le FRAC en 2010, on aura eu le CAP 2015, après on a eu la coalition des 14 partis politiques, mais à chaque
fois... Sans oublier collectif, selon le Togo.
Oui, en 2012 déjà. Donc à chaque fois, ça n'a pas marché, parce que, comme je le dis, les gens ne prennent pas le temps de définir clairement ce qu'ils veulent ensemble. Si nous définissions clairement une vision de la même chose, et nous avons les mêmes terminologies à utiliser pour réclamer ce que nous cherchons, je pense que ça pourrait être autre chose. Donc, la question de l'opposition, elle est très compliquée. Très, très compliquée aujourd'hui, parce que là, on est dans une situation où on a l'impression qu'on n'a même plus d'opposition au Togo aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué. Maintenant que l'un des concernés, le professeur Aimé Gogué, essaie de poser le débat, est-ce qu'il le pose dans les bons termes? Je ne sais pas. On va poser la question à ses collègues de l'opposition. Mais cette question de méfiance pourrait être résolu à mon sens, si des gens se mettent clairement à table pour discuter des choses qu'ils veulent ensemble. S'ils veulent véritablement se remettre ensemble, faire une coalition, on ne pourra pas faire avec monsieur tout le monde. Et on aura toujours des gens qui vont trahir, on aura toujours des gens qui rouleront pour le pouvoir, on aura toujours des gens qui ne verront pas les choses dans les mêmes termes. Mais la question du Togo est très compliquée. Parce que quand on va commencer par parler de l'union de l'opposition, il faut essayer de dire quelle opposition et quel type d'opposition. Voilà, il faut essayer de creuser tout ça.
Ça veut dire que l'opposition est plurielle au Togo, c'est ça?
L'opposition au Togo est multiple. Est très multiple. Il y a des opposants au Togo qui ne veulent pas le pouvoir. Et il y en a qui veulent le pouvoir. Donc si tu es un opposant, tu veux le pouvoir. Tu te mets en coalition avec un opposant qui ne veut pas le pouvoir, ben tu imagines déjà que la lutte a déjà échoué. Si tu es un opposant qui veut le pouvoir, et un opposant, l'objectif de son parti politique, c'est peut-être d'avoir quelques ministres au gouvernement. Vous avez déjà échoué avant même de commencer. Donc l'opposition au Togo, elle n'est pas seulement plurielle, mais elle est multiple et multi-objectif. Donc à partir de ce moment-là, c'est très très compliqué de se dire on a véritablement des gens qui luttent pour la conquête du pouvoir. Mais la situation de l'opposition telle qu'elle se retrouve actuellement n'avantage même pas le pouvoir, n'avantage pas le parti au pouvoir, parce que les fois où on a vu des exploits de la part du grand parti politique, c'est les fois où on a senti une opposition assez dérangeante, assez forte, assez dérangeante, on a vu des exploits. Mais bon, si vous n'avez rien en face, vous allez dormir sur vos lauriers. Et voilà, c'est le pays, c'est tous les Togolais qui vont payer le reste après, après peut-être des années. Donc aujourd'hui, il revient à tous les acteurs de l'opposition de se dire, est-ce qu'on est forcément obligé de se mettre ensemble pour conquérir le pouvoir? Ou on reconstruit nos partis politiques, quitte à avoir un parti politique qui est fort, qui se donne peut-être l'objectif de l'alternance dans la durée. Le problème aussi avec notre opposition, c'est qu'on veut une chose ici et maintenant, on veut la chose ici et maintenant, mais dans les conditions actuelles, vous n'avez pas les moyens, vous êtes opposant depuis plus de 30 ans, vous n'avez pas des sociétés qui vous financent, vous n'avez pas des cadres, vous n'avez personne derrière vous. Si vous allez seulement compter sur le bon cœur des militants, des partis politiques, vous ne pouvez pas, voilà, par exemple, prendre en charge ne serait-ce que des délégués dans les bureaux de vote et après vous allez crier aux voleurs. Mais ben, le mal est déjà fait parce que vous n'avez pas des moyens. Peut-être se donner de l'objectif, peut-être sur 10 ans. Bon, 10 ans, c'est quand on parle de 5 ans, 5 ans. Maintenant, je ne sais plus, on parle de 6 ans ou des choses comme ça. Donc, si c'est dans la logique des 6 ans, donc peut-être faire 6 fois 4, on se donne l'objectif dans 24 ans pour voir si on pourra avoir de l'alternance ou bon, tout au mieux des cas.
Pourvu qu'on soit en vie, c'est aussi ça l'essentiel. Oui, mais
le Togo va continuer à vivre. Je suppose que tant que le Togo continuera à vivre, il y aura toujours des opposants.
Justement, quand vous parlez alors de la complexité des problèmes, surtout politiques, au Togo, ça me rappelle bien quelqu'un disait que quand on t'explique la situation politique alors du Togo et que tu dis que nous avons compris, ça veut dire qu'on t'a mal expliqué. Voilà, alors, Gossam, je reste toujours avec vous hein, à propos de la politique. Et vous écrivez à propos de la fameuse 5e République, le chien aboie, Fogna Singbe passe pour combien de temps encore? C'est une question que vous vous posez.
Oui, tout comme beaucoup de citoyens se la posent, mais sans oser la laisser franchir leurs lèvres. Le mois de mai arrive au galop. Il y a deux dates, le 4 et le 5. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Jusqu'à ce jour, Pascal, en mon âme et conscience, si je devrais passer le bac et que le seul sujet devrait porter sur la 5e République, le changement de constitution et autres, tout le méli-mélo qui se passe au Togo, je suis sûr à 100% que je vais échouer d'emblée.
Comment ça?
Je ne pige que dalle, Pascal. Je ne pige que dalle. Normalement, les constitutions passées, on n'a pas eu du mal à les digérer. Le changement qu'il y a eu, tout ce qui est consigné dans la constitution, quand on la viole, finalement, je me dis... Qu'est-ce que je dois retenir comme étant véridique? Je ne trouve pas, en toute honnêteté. Donc, cette affaire, ils sont nombreux, ces Togolais qui murmurent et se disent, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais, comme on l'a écrit, le chien aboie, ce n'est plus la caravane qui passe, c'est notre président qui passe. Mais jusqu'à quand?
D'accord. Vous me disiez, c'est vrai que, est-ce qu'on est encore à cette étape? Cette étape où on nous dira, oui, et il faut contester, il faut faire front envers la nouvelle constitution. Puisque déjà, après les sénatoriales, c'est comme si déjà tout se met déjà en place, ou tout va se mettre en place.
Oui, après les élections, bon, voilà, la Cour constitutionnelle vient même de finir de proclamer les résultats définitifs.
Tout à fait.
Ça veut dire que peut-être demain ou après-demain ou voilà. Non, si on lit bien la nouvelle constitution, ça doit être le... Voilà, bon, je sais pas quand démarre la session des droits, mais le Sénat doit commencer son affaire.
Je pense en avril.
En mars. Hein,
ou en mars.
Mars. Bon, d'accord. On pourra continuer de lire. Mais bon, il faut quand même une session de droit et tout ça. Bon, on prendra le temps de lire.
Dans la première session, je pense que c'est en avril plutôt.
D'accord. Mmh. Donc, mais il faut qu'ils se réunissent pour élire le président de la République avant avril. Ah oui, en avril, bon, on a encore le temps de l'élire. le président de la République, afin que le président du Conseil des ministres prenne fonction. Donc on aura tellement de présidents. Donc. Mais de toute façon, comme tu le dis, le pouvoir togolais sait où il va. Contrairement à l'opposition, donc le pouvoir togolais, lui, sait où il va. C'est lui qui détient l'agenda, déroule le chronogramme. Et donc, ils ont tout le temps, aujourd'hui, on est le 24 février, donc ils ont tout le temps de tout faire hein, pour ne pas, voilà, pour ne pas avoir de problème avant mai dont parle mon confrère aîné. Et donc, pour moi, il faut continuer à observer. Pour le moment, continuer à observer tout ce que cela donnera. Peut-être qu'après mai, on verra le vrai visage de la nouvelle République et qu'on verra naturellement dans le fonctionnement de cette République-là tout ce qui est promis, notamment plus de démocratie, de développement et tout ça. Donc voilà, si on a le visage de la nouvelle République, parce que là, actuellement, je ne vois pas ce qui pourra empêcher le pouvoir togolais de continuer à dérouler son agenda de la nouvelle constitution. Ils ont déjà ils ont déjà les députés pour cela depuis bientôt un an. Maintenant, on vient d'avoir les sénateurs. Ils sont majoritaires partout. Et donc, voilà, ils auront le président de la République, le président du Conseil des ministres. Lui, il est déjà assez connu, annoncé depuis plusieurs fois, plusieurs mois d'ailleurs. Et donc, il reste qu'ils prennent fonction après l'élection du président de la République. Donc, on ne sait pas à quelle date on va élire le président de la République, sinon c'est seulement ce qui manque dans le chronogramme. Donc, une fois le président de la République est élu, ben, c'est la 5e République qui est véritablement en place. Et donc, il reste qu'à avoir le visage. Mais à l'étape actuelle, est-ce que quelque chose pourra les empêcher? Sauf cas de force majeure, je ne vois pas. Je ne vois pas véritablement. Et donc, ce que nous, on peut souhaiter, c'est que ben, les tests que les gens se sont donnés eux-mêmes soient appliqués dans les règles de l'art et les échéances données soient respectées. On nous a dit au plus tard, voilà, un an. Un an, ça finit. Il a donné une date, 4 mai ou 5 mai, 5 mai 2025. Donc, justement, qu'on puisse faire les choses dans les normes que les institutions, que le gouvernement de la transition était censé mettre en place au plus tard le 5 mai 2025, soit en place et que les choses se fassent normalement et que la nouvelle République, qui devrait nous permettre d'avoir un pays très stable, très réconcilié et très développé, puisse être une réalité. Ce sera le bonheur de tous les Togolais, que le Togo se développe enfin.
D'accord. Oui, je veux juste terminer par ceci. Je crois que cette affaire de nouvelle constitution que les États-Unis ont botté de côté notre pays dans l'atteinte du Millennium Challenge à compte. Maintenant que tout...
Mais c'est parce qu'il a été expliqué quand même, hein? Clairement?
C'est pas...
Clairement, est-ce que c'est ce qui a été expliqué?
Non, le gouvernement togolais a donné de faux arguments. Mais si tu veux savoir la vérité, tu vas sur le site du mcc.gov. C'est en anglais, mais c'est digeste. Tu vas comprendre que c'est pour déficit de réforme démocratique que le Togo n'a pas été élu. Maintenant, je serai attentif pour savoir si les États-Unis vont ravaler ce qu'ils ont déjà dit après qu'on aura mis en place le scénario, ou alors s'ils vont persister dans leur exclusion du Togo du compact.
D'accord. Il est déjà midi. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons les écouter sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi leur réaction sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57 est attendu. Et donc nous allons leur donner la parole. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui. Bonjour.
Bonjour Pélé. Comment vous allez?
Très bien.
Bien passé le week-end?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Je voudrais interpeller surtout tous les Togolais qui disent des fois que l'opposition ne gagne jamais le pouvoir. Ne touche jamais comment on organise les élections au Togo. Mais je ne sais pas si c'est écrit dans la Constitution si que il faut que l'opposition soit ensemble. Les journalistes touchent de doigt ce qui se passe au Togo. La mauvaise organisation des élections. C'est ça qui est important. Nous voulons la démocratie. Mais par force de gré, l'opposition va aux élections. C'est par force de gré. Ce qui se passe, si vous voyez tout ce qui se passe dans nos pays, dans la sous-région, le Togo est le seul pays qui n'a jamais trouvé l'alternance. Mais les gens vont dire que oui, pourquoi? Parce que le pouvoir RPT, il gagne tout, il gagne tout. Il a tout, mais il ne fait rien. Il a tout, mais il ne fait rien. C'est ça qui est facile. Si nous voyons les élections passées, à chaque élection, prenons les élections de 2020, 5 ans jour pour jour, Dr. Agbona a gagné les élections. Mais pour aller aux élections, il y a le code a dit qu'il faut donner le fonds d'aide, aux campagnes. Mais le pouvoir n'a pas donné à l'opposition. Le pouvoir n'a pas donné ça. Mais ça, c'est la violence. Ça, c'est la mauvaise organisation des élections. Ça, c'est une élection fraudée. C'est une élection fraudée lorsque vous êtes en ligne, que le texte a dit de faire ça et que vous ne faites pas ça. C'est ce qu'il faut, c'est ce que le journaliste doit toucher du doigt. Pourquoi le RPT Unis veut toujours organiser des élections frauduleuses? Pourquoi on a enlevé maintenant les élections présidentielles? Si le président Faure, qui a gagné les élections à plus de 70%, mais a dit que les élections présidentielles ne sont pas bonnes pour le Togo. Je ne vois pas le rapport.
D'accord.
Pourquoi les élections ne sont pas transparentes? Les élections présidentielles ne sont pas bonnes pour le Togo. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que les élections présidentielles ne sont pas bonnes pour le Togo? C'est parce que le peuple togolais ne veut pas ceux qui sont au pouvoir. Eux-mêmes le savent. Pourquoi il ne veut pas aller aux élections présidentielles?
D'accord, merci beaucoup Pélé.
Oui.
Oui, merci pour votre intervention. Vous avez été largement compris. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, vous voyez comment les gens parlent à Gol de Poire. La grande masse qui oppose le pouvoir, c'est le peuple. C'est pourquoi Faure craint les élections présidentielles. Il a passé par ses amis de l'Assemblée. Godson, je m'aligne derrière vous. Nous tous sommes assurés des amis au Togo. Puisque personne ne peut démentir là-bas que nos lois dont on s'est dressé, hein, qu'on dise qu'à 6 mois des élections, on ne touche pas à une seule loi. Mais les députés osent finir leur mandat prolonger, disent que 4/5 modifier veut dire changer la constitution. On allait utiliser la faiblesse, je ne sais pas, l'intelligence de éminents professeurs de droit. Ils sont venus ici passer à cause de la politique pour nous tromper que c'est une bonne chose. En tout cas, Dieu a fait qu'on a Donald Trump, il est en train de chasser leurs enfants qui fréquentent les universités de l'Amérique, leurs biens qui sont là-bas. Il n'a qu'à les saisir tout. Ils savent qu'ils travaillent bien pour le Togo, là, que leurs enfants viennent fréquenter pour au Togo, qu'ils soient soignés au Togo, et ce qui nous trahit, ce qui veut nous trahir après, c'est l'Union Européenne, l'Europe, la France et tout. Si l'Amérique tient le cap, et que les autres les accompagnent, je crois qu'ils vont y mettre pour que les choses se passent bien.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Les chiens aboient, la minorité avale la majorité. Le Togo sous l'air le plus fort, c'est Célestin qui nous écrit le message pour sa réaction 90-86-35-35. Allô?
Oui, alors bonjour.
Bonjour, Evangeliste Senghor, comment vous allez?
Que le Seigneur vous bénisse sur le plateau.
Amen.
Bon, je voudrais corriger, excusez-moi le mot, un de vos confrères là qui disait que lui n'est pas un politicien, qu'il est un journaliste. Mais je suis étonné où le journaliste est la quatrième pouvoir du pays. Et là, tout le monde fait la politique. Mais si tu refuses de faire la politique elle-même qui fait. Vous voyez. Bon, moi, je voudrais m'intéresser un peu de près que notre pays, le Togo, est en train de faire. Mais tous ces prêts-là, ce n'est pas d'hygiène, ça veut dire que ça ne se sent même pas qu'un régime qui fait des prêts pour développer une nation. Je donne un exemple. Je connais de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de M. Ouattara est basée sur des prêts. Et peut-être que c'est un monsieur qui fait des prêts. Et quand tu arrives à Abidjan, en Côte d'Ivoire en général, tu sais que vraiment le pays est en train de se développer. Mais dites-moi, vous les journalistes, au Togo, qu'est-ce que vous allez sortir? Il n'y a pas, il n'y a rien. Tu me poses la question souvent, tous ces prêts-là servent à quoi? Tous ces prêts que nos dirigeants togolais sont en train de demander un peu partout, là, ça sert à quoi? C'est ma question. Vous voyez, non? Donc, le développement du pays, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la main tendue. Ou même des fois aussi, ça nous amène la bénédiction, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bénédiction que de donner que de recevoir. C'est pour cela, de la fin, moi, je suis très content de lui qu'il sanctionne les gens, il coupe même certains prêts. Vous voyez, donc, il faut que nos dirigeants, les prêts là, qu'ils font, qu'ils demandent, et ils prennent là, c'est moi, Evangeliste Senghor, j'ai ma part dedans, je dois payer ça. Vous, les journalistes aussi, vous payez ça. Vous voyez, peut-être que vous allez dire, mais l'Evangeliste Senghor, là, il a quoi dans ça. Moi, je suis traducteur, je ne suis pas un évangéliste, je suis un traducteur, je dois payer aussi ces prêts. Mais il faut que ces prêts là servent à la nation togolaise. Je vous remercie beaucoup.
D'accord. Merci beaucoup, Evangeliste Senghor. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, M. Gado. Comment vous allez?
Ça va très bien.
D'accord, allez-y.
On le traite d'un fou. C'est un fou qui réfléchit bien. Moi, je veux que Donald Trump vienne même dans nos pays là pour confisquer leurs biens. Il n'a qu'à faire tout pour confisquer leurs biens. On ne peut pas les laisser mourir et au même moment envoyer leurs enfants là-bas et des grâces. Non, ce n'est pas possible. Vous savez? Moi, je sais que tout le temps, Dieu va nous chercher sur cette terre. Les gens n'ont rien de fait. Et le maïs a 1000 francs. Les gens sont au pouvoir presque le même parti, presque 40 ans. On ne fait rien. Mais pourtant, c'est les femmes qui sont au pouvoir. Et les femmes, elles ne vont pas marcher. Ça ne sont pas titrées. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà ce qu'est le problème. Ça va nous amener quoi? Voilà les banques qui commencent à faire grève. Moi, je n'ai jamais entendu ça au Togo. Les banques qui doivent faire grève. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi ça? Vous, les journalistes, je vais vous demander quelque chose. Vous ne vous répondez jamais à ma question.
Oui, mais
est-ce que la teneur fait peur?
Allô, monsieur Gado.
Répondez-moi, la teneur fait peur au Togo. Monsieur, bonne journée.
90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Nyamavo qui revient pour compléter une chose là.
Oui, monsieur Nyamavo, allez-y rapidement.
Oui, concernant l'opposition, l'unité dans la diversité, c'est une bonne chose, hein? Il faudrait que cette fois-ci, ils considèrent tous ceux qui veulent l'alternance et que chaque parti politique soit un point focal dans l'expression électorale. Celui qui joue mal le jeu dans sa expression électorale, on sait que celui qui a l'été, on a gagné dans sa expression électorale. Je vous remercie.
Merci, M. Nyamavo, pour votre intervention. 90-86-35-35, 91-36-63-75, 90-45-78-57. C'est sur ce numéro que vous pouvez facilement nous écrire, nous appeler sur nos deux numéros 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Patrick.
Comment vous allez ce matin?
Ça va pas, la grâce de Dieu.
Et chez vous? Je salue tout le monde. Hein. Je veux parler ce matin du cinéma, concernant ce que vous avez eu à évoquer là. Vous savez, le gouvernement fait sa part
Mais entre les acteurs, moi je me pose cette question, entre ces acteurs du cinéma, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce qu'il y a de l'entente? Il n'y a pas de question de leadership? Si ce n'est pas moi, mon second aussi ne passera pas. Puisque dans cette affaire, voyons un peu dans la sous-région. Et quelle est notre marque ici au Togo, 228? Quelle est notre marque? Et sur ça, on peut dire qu'on peut se baser sur ça pour développer notre cinéma. C'est ça aussi. Il faut partir d'une marque pour que ça puisse prendre, quoi. Regarde, vous avez cité la Côte d'Ivoire. Ben, ils ont leur accent qui permet même dans les cinémas, là, quand ils emploient, vous saurez que ça donne, quoi, la même chose. C'est ça aussi, mais on peut mettre des milliards, mais si vous, les acteurs même, un, ne s'entendent pas, de deux, n'ont pas leur marque propre à eux, je ne pense pas que ça puisse évoluer pour mon émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention, 90-86-35-35. Allô?
Monsieur Pascal.
Oui, bonjour.
C'est le couple à ces questions-là. Monsieur Pascal.
Oui.
Recevez aussi, vous, les pasteurs, les évangélistes, nous sommes des Togolais aussi sur votre plateau. Pour au moins analyser et parler. Si vous recevez seulement votre rédaction, recevez seulement les journalistes là, non.
Oui, mais Évangéliste Senghor. Allô, Évangéliste Senghor. Allô, Évangéliste Senghor. Oui, l'émission s'appelle bien Club de la Presse. Et là, nous vous donnons aussi la parole tant que nous avons vraiment la possibilité. Et c'est ce que nous faisons. Et vous faites bien également d'intervenir.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Votre nom, c'est?
C'est Monsieur Kossi.
Monsieur Kossi, vous nous appelez d'où?
J'appelle de Lomé.
D'accord, allez-y. Oui, allez-y.
Bon, moi, je n'ai pas l'habitude d'appeler, d'abord. Et j'ai aussi souvent. Mais, monsieur le journaliste, je voudrais dire qu'il est temps que les Togolais se demandent qu'est-ce que ces dirigeants-là veulent pour le peuple. Parce que depuis que M. Faure est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a réalisé depuis ses 5 ans au pouvoir? Il faut que les Togolais se demandent.
Allô?
Marcher un peu depuis dans la ville de Lomé, prenez la route de Yokwe, de la Pampa à Yokwe. Vous avez déjà passé par là? C'est dommage pour le Togo. Mais quel genre de dirigeant avons-nous? Moi, je voudrais juste demander une chose à nos gouvernants, de nous rendre des comptes. Si vous parlez de toutes ces routes-là que nous n'avons pas, l'agent de fer là, ça passe par où? Il faut que il faut qu'on se lève et on réclame des comptes à nos dirigeants. C'est juste ce que je voulais dire.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kossi, pour votre intervention. Nous avons notre dernier auditeur en ligne, on le reçoit. Allô?
Mon directeur Pascal, bonjour.
Papa Sibiti, bonjour.
Bonjour, Monsieur Isidore.
Très ravi quand même d'écouter votre voix, Papa Sibiti. Allez-y.
Merci beaucoup, vous savez, et les autres dont je n'ai pas appelé le nom. Les Togolais sont fatigués. Nous sommes fatigués là. Et nos enfants, il faut que les gens là, les politiciens, ils s'entendent pour délivrer les Togolais. Le gouvernement, le président, il veut l'amélioration des conditions vitales des Togolais. C'est là aussi. Ils n'ont qu'à s'entendre. Je veux que vous êtes là-bas, que vous ayez du boulot. Est-ce que le Togo ne peut pas prendre en charge les chômeurs, les journalistes, les retraités, pour s'occuper d'eux?
les gens vont manger trois fois par jour. Et ceux qui veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à aller. C'est tout ce que moi je voudrais dire. Depuis 90, mes enfants, mes directeurs, vous me voyez, une liste de 80, depuis 90, sans effet sur le quotidien togolais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. Et je lis cette réaction de Prince Senaya qui nous écoute depuis Nyakonakwe. Et si je vais qualifier le Togo, je peux dire que le Togo est devenu un pays mendiant. À ne pas dire, notre gouvernement ne fait que mendier. Et c'est la réaction de Prince depuis Nyakonakwe. Cher confrère, revenons en studio pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission. Gosson, vous avez écouté les uns les autres sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici. Votre réaction?
Tu sais, moi, par modestie, même si on me fait des remarques sur les ondes, je fais mienne ces remarques pour m'améliorer. Je ne vais répondre à aucun interlocuteur au cas où il se serait adressé à moi. Je veux juste dire, revenant à ce que tu avais lu, confiance renouvelée des investisseurs au Togo en matière d'emprunt sur le marché de Yomo à titre. Normalement, le bon sens voudrait que, au fil des années, la présence d'un pays sur le marché financier en termes monétaires diminue. Parce que vous n'allez pas bâtir votre pays sur des emprunts. Cela dit que la mobilisation croissante des ressources internes doit aller de pair avec la réduction de la présence sur le marché financier. Parce que pour ce qui est des investisseurs, du moment que sur ce marché financier, il y a un taux d'intérêt que le journal a omis de rappeler ici, mais si en plaçant 1 milliard, au bout de 3 ans, peut-être que j'aurai 1 milliard, 300 millions, je vais investir. Si c'est ça qu'on veut appeler confiance en le pays, moi je suis triste. Parce que les investisseurs, eux, ils trouvent toujours leur compte. Je l'ai dit tout à l'heure que pour 2025, le Togo doit payer pour la dette et les intérêts 877 milliards.
On l'a bien écrit entre temps.
Voilà. Donc, depuis 20 ans que l'actuel président est là, on devrait faire en sorte que, à ce jour, le montant annuel que le Togo doit rechercher sur le marché financier soit inférieur à celui de l'année passée, ainsi de suite. Je me rappelle quand on avait fait l'emprunt Sukuk, c'était en 2016, 150 milliards. Et on avait mis en garantie des immeubles. C'est vrai, on est en train de régler, si ce n'est pas déjà tout réglé. Mais à quoi ça a servi? C'est cette pédagogie-là qui manque aux autorités. Vous voulez faire les emprunts, par exemple, les 16,7 milliards, à quoi ça va servir? Il y a un autre aspect. Dans le passé, concernant l'ARCEP, qui était ARCOP dans le temps, chaque année, il y avait des rapports d'audit.
RMP,
justement. Merci. Les rapports d'audit de certaines institutions. Et c'était très croustillant. La RMP, l'ARCOP n'en produit plus, ou alors s'il en produit, ce n'est plus publié. L'IGE, l'inspection générale d'État, c'est rare qu'on voit sur une année qu'elle aura audité 5 ou 6 institutions, c'est pas vrai. L'IGF, il y a tellement d'institutions de contrôle, mais dont on ne voit pas les produits. La Cour des comptes. Donc, ce faisant, comment est-ce que ça passe où la reddition de comptes aux citoyens, puisque c'est en leur nom que vous dites gouverner.
D'accord, merci beaucoup, Gosson Ketomania. Je ne sais pas si vous voudrez bien répondre à la question de Monsieur Gado. Monsieur Gado qui veut savoir si l'alternance fait-elle peur au Togo.
Non, elle ne fait pas peur. De par les actes, on n'en veut pas. Parce que ça risque de faire découvrir trop de choses. Je dis bien, ça risque de faire découvrir trop de choses, Pascal. Trop de choses.
D'accord, ok. Oui, Didier.
Je voulais rebondir sur une réaction d'un auditeur qui parlait de problèmes de leadership dans le secteur cinématographique. Moi, je n'en vois pas. C'est un faux problème. Alors, on pourra faire ce reproche quand on sera peut-être en politique pour dire, oh, les opposants, oh, leadership, tout ça. Mais quand on parle de domaine cinématographique, il n'y a aucun conflit, d'intérêt, aucun problème de leadership entre les gens. Moi, j'ai mon inspiration pour faire tourner mon film à moi. Quel est le problème que je vais avoir avec quelqu'un? Le problème au niveau de ce secteur, c'est le manque de soutien financier. Faut pas qu'il essaye de dédouaner qui que ce soit. Reconnaissons le problème de ce secteur et si la volonté y est et qu'on veut en faire véritablement un secteur de développement du pays qui donne de l'emploi aux jeunes et tout ça, il faut justement qu'on finance ce secteur. Il n'y a aucun problème de leadership ou de quoi que ce soit. En France, en Côte d'Ivoire, partout où il a cité l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a plusieurs maisons de réalisation, plusieurs réalisateurs. Ça n'a jamais empêché que ce secteur-là avance et ça n'a jamais empêché le gouvernement ivoirien de financer, de soutenir. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, je pense que Papa Sibiti a dit quelque chose d'assez fondamental. Je pense que le véritable problème des Togolais aujourd'hui, c'est par exemple pour les jeunes, le manque d'emploi ou le problème de sous-emploi. Un certain l'a fait, il a dit des gens doivent manger 3 fois par jour. Bon, il faut d'abord se demander combien de personnes arrivent à manger 1 ou 2 fois par jour. Et on a des problèmes de route, on a cité un certain nombre de problèmes, des gens qui attendent de l'eau, des gens qui attendent des routes, de l'électricité, un peu partout sur le territoire. On a véritablement ces problèmes-là et qui doivent beaucoup plus nous préoccuper et préoccuper les dirigeants afin qu'ils se remettent beaucoup plus au travail et qu'ils font plus d'efforts qu'ils ne fassent actuellement. Maintenant, est-ce que l'alternance et tout ça, ça reste un problème de politiciens, de politique? Ils peuvent continuer à lutter dans ce sens les uns et les autres, mais le véritable souhait des Togolais aujourd'hui, c'est que le pays puisse connaître un vrai développement et que les uns et les autres aient les réponses à leurs besoins, à leurs solutions. Je crois que c'est le mieux que les Togolais attendent.
Merci beaucoup, Didier Sogba. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne Togo Breaking News. Merci d'être passé dans cette émission. Gosson Ketomagnon, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes journaliste au journal Liberté. Et merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour votre contribution à ce débat. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Zéro Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.